Le billet politique, Frédéric Saïs, vous revenez sur le coup de colère de Donald Trump qui a refusé de signer la déclaration commune du G7.
Et dire qu'on croyait qu'il ne se passait plus rien au G7. Ces grands barnums étaient devenus au mieux folkloriques, au pire inutiles. Les sept premières puissances du monde, au moins revendiquées comme telles, qui discutent le bout de gras dans des enclos surprotégés. Tout cela pour établir des communiqués finaux régulièrement insipides, sculptés dans la meilleure langue de bois, des communiqués dans lesquels le club des sept promet d'agir pour la coopération économique, la stabilité internationale, contre le terrorisme et la famine. En somme, des réunions de famille dans lesquelles le principal suspense tient dans la durée des poignées de main et dans l'anecdote vestimentaire. Exemple, faut-il porter une cravate? Voici le premier G7 de François Hollande en 2012.
Barack Obama plaisante sur la cravate de François Hollande. Le président français est le seul à en porter une hier soir lors de l'accueil des dirigeants du G8. Grand sourire et poignée de main chaleureuse. Depuis leur première rencontre hier dans le bureau ovale, Barack Obama et le président français ont à cœur de montrer une joyeuse complicité.
Cela paraissait consternant à l'époque, cela paraît désormais le bon vieux temps, quasiment de la pellicule en noir et blanc, car désormais le président américain en fait voir de toutes les couleurs à ses homologues. Il ne se préoccupe pas de leur cravate, mais leur taille volontiers. Des costumes demandés à Justin Trudeau, le premier ministre canadien, qualifié de lâche et de faible par Trump dans un tweet envoyé à ses 53 millions d'abonnés. Le ton doucereux n'est plus de mise. Soyons sérieux, a pesté l'Elysée dans un communiqué officiel. De même, à de rares exceptions près, les sommets du G7 ces dernières années se caractérisaient par leur absence totale de suspense. Tout finissait par des textes communs suffisamment vagues pour permettre ensuite à chaque chef d'État et de gouvernement, chacun devant les journalistes de son pays, d'expliquer à quel point ils avaient pesé à huis clos sur le texte final. Bien sûr, les divergences ont toujours existé, même si elles étaient masquées derrière les sourires de la photo finale. Mais l'arrivée de Donald Trump a bouleversé un consensus, celui de l'accord général pour l'ouverture des marchés et l'accentuation progressive des échanges économiques internationaux. Jusqu'ici, on assistait à une diplomatie des petits pas, sans fracas, sur le commerce comme sur le réchauffement climatique. Voici par exemple Nicolas Sarkozy, c'était au G8 en 2008.
On peut toujours dire qu'on aurait pu aller plus loin, c'est exact, mais enfin, dire qu'on aurait pu aller plus loin, c'est accepter l'idée qu'on a été plus loin que ce qui était imaginable à l'arrivée.
Voilà donc comment Donald Trump devient une boule de dissensus jetée dans un moteur à consensus. Il n'hésite d'ailleurs pas à renforcer encore la vocation conflictuelle du G7 en souhaitant le retour de la Russie dans le club. La Russie est exclue depuis 2014 et son annexion de la Crimée, ce qui faisait du G7 un club pour pays libéralo-occidentaux et leurs alliés. En cela, Donald Trump montre au grand jour la ringardise du G7, un club qui, on peut s'en désoler, allait à contre-courant de la montée progressive du protectionnisme, de l'aspiration aux frontières, de l'émergence de nouvelles puissances internationales. Le G7 qui avait déjà pris un coup de vieux avec la création du G20 qui est déjà plus représentatif. Alors au-delà de la dramaturgie, on connaît la mécanique de ces sommets. Des conseillers y travaillent discrètement et de manière multilatérale pendant des mois. Ils préparent d'ailleurs celui de l'an prochain, déjà en France, à Biarritz, pour que ce soit une réussite, même si on sait désormais que tout l'édifice peut être détruit en quelques secondes, le temps qu'il faut pour rédiger un tweet vengeur.
Merci beaucoup Frédéric Saïs. 8h20 sur France Culture.